Voici un président ismaël au Qatar oriental. Les refus totalement ce qui se
passe. Voici une télécommunication au Qatar oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et partage citoyen. Les réserves internationales de la RDC se situent en dessous de la barre de 1 milliard de dollars américains. Selon la dernière réunion de la Troïka économique du gouvernement, cette situation serait due à la baisse des recettes conséquentes de la chute des prix de matières premières, principal moyen de financement du pays. Une situation qui a occasionné la dépréciation de la monnaie nationale ainsi que la baisse continue du niveau des réserves internationales. Quel serait, selon vous, le préalable pour inverser l'impact de cette situation sur la croissance économique? À l'adresse ca@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-899-3315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook au même moment. Donc, le débat se tient sur notre page Facebook, nous les rappelons. Julie Feza Bongonda est à la réalisation et au standard de cette émission. Sylvain Matundu est à la mise en œuvre de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie sous la supervision de Martin Sebou Djangoué. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Avant de retrouver notre invité, Michel Somoué, analyste économique, nous ouvrons les standards avec vous, Sylvain. Vous êtes à Bounia. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, je voudrais aussi saluer directement l'invité. À l'occasion, saluer tous les Congolais et tous les compatriotes congolais qui nous suivent à ce moment.
Alors, quel est votre avis? Quels seraient, selon vous, les préalables pour inverser l'impact de cette situation sur la croissance économique?
En fait, comme nous l'avons toujours dit, ce qu'est en économie, il y a ce qu'on appelle le principe de la rigueur de la gouvernance de l'économie. Et donc, il faut là comprendre que, le plus souvent, nous sommes en train d'agir en amont, au lieu d'agir en aval. Pourquoi? Puisque, en toute économie qui se respecte, il faut subir, n'est-ce pas, il faut avoir des bases économiques solides pour que l'économie puisse respirer, puisque l'économie fonctionne comme un homme. L'homme qui est nourri chaque jour, il essaye de connaître une croissance normale, et à la fin du compte, même s'il va mourir, il va pouvoir mourir dans des voies qui sont normales. C'est de la même façon que j'ai l'économie. Alors, vous écoutez tous les jours ici la Troïka, qu'on sort de concepts économiques un peu compliqués, complexes par rapport à la compréhension d'un peuple qui n'est pas tout à fait informé sur ce qui s'appelle l'économie. On parle de la macroéconomie maîtrisée, cadre de la microéconomie déjà maîtrisée. Mais alors, on se pose toujours des questions. Pourquoi? Puisque chaque fois qu'on ressort, on sort d'une réunion, la conclusion est toujours en défaveur de la santé économique de notre pays. Tout simplement, il faut relever quelques nombres d'éléments. La première chose, c'est que, comme je l'ai toujours dit, il y a cette mauvaise combinaison des secteurs productifs de l'économie. Il faut qu'on se pose la question dans ces pays en RDC, dans quel secteur on investit, quel est le secteur productif qui peut garantir non seulement la sécurité économique et financière interne, mais qui peut au même moment permettre à ce que lorsque cette sécurité est garantie à l'interne, et que nous puissions avoir maintenant un impact sur l'économie internationale ou l'économie mondiale. Et ceci, sur le plan aussi financier. Maintenant, vous allez comprendre aussi, lorsqu'on parle de la réserve internationale légale, ce que j'appelle aussi, je peux même ramener cette réserve au niveau national, c'est en fait, d'une manière simple, qu'on dirait que si le capital de France sera investi, et que le taux de la réserve obligatoire soit de 10%, et que la réserve obligatoire nationale ou internationale, on peut toujours faire ce dans la ligne, la comparer avec l'État national et international, est de 10 francs congolais.
Oui, oui, oui. C'est un métal tout simple. Oui, Sylvain, je crois que pour les néophytes qui nous suivent en ce moment, il faudrait quand même que nous apportons quelques précisions pour que les débats soient un peu fluides. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par réserve internationale dans un pays ou dans une banque centrale?
En fait, il faut dire que la Banque centrale, comme maître de la politique monétaire nationale, doit se constituer une réserve, c'est-à-dire c'est une part de liquidité sur certains titres financiers qu'on sort pour garantir les transactions d'ordre international. Et donc, vous savez que là, il faut faire nécessairement appel à ce qu'on appelle les bourses. Ce qui n'est même pas en RDC. Voyez-vous, puisque je voudrais ramener le débat pour que les gens comprennent le dysfonctionnement du système financier international par rapport à la RDC. Puisque lorsqu'on parle de réserve internationale, pour le commerce des mortels, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est tout simplement cette part de liquidité qui est prévue pour faire contrepoids à tout ce qu'on appelle situation financière internationale, dans une économie nationale. Et donc, c'est ce qui pose un problème. Vous avez, disons, la politique situe ça à 1 milliard de dollars. Et c'est très dangereux, puisque lorsqu'on regarde les niveaux, ou soit les volumes de transactions commerciales internationales, par rapport à 1 milliard qui constitue les réserves de la RDC, puisque lorsqu'on parle de réserves internationales, il risque de penser que c'est une réserve qui couvre les transactions internationales. Non, c'est la réserve de la RDC par rapport à l'économie internationale.
Mmh. Alors,
à ce niveau-là, oui.
Oui, je disais, les raisons qui sont avancées aujourd'hui, parce que selon la dernière réunion de la Troïka, cette situation serait due à la baisse des recettes conséquente de la chute des prix des matières premières. Comment vous réagissez?
C'est ce que j'étais en train de dire, M. le journaliste. Ça veut dire quel est le secteur productif dans lequel l'économie congolaise est investie? Ici, je dis d'abord, il y a un problème. C'est que vous savez que le système d'économie boursière n'existe pas en RDC. Or, c'est là où la santé financière est très exploitée. Deuxième chose, lorsque la Troïka parle des secteurs économiques, effectivement, vous savez que la RDC, comme nous l'avons toujours répété ici, est investie particulièrement dans le secteur minier. Un secteur qui ne garantit pas à long terme une économie. Pourquoi? Puisque ce sont des matières qui s'épuisent, même si les gens pensent que ces matières-là ne peuvent pas s'épuiser. Il faut se rassurer que dans une économie où l'agriculture est mise à panne, où les transactions commerciales internes ne subviennent pas aux besoins nationaux, et moins encore interviennent dans le reste du monde, ce que j'appelle ici communément le RDM, donc il y a un danger. Ici, lorsque nous regardons en termes simples, que produisent les banques en RDC? Quels sont les problèmes liés aux transactions financières? Puisque lorsqu'on parle de réserves, on a affaire à une banque, et lorsqu'on parle d'une banque centrale, on a affaire à des banques commerciales. Vous avez compris avec le débat que nous avons lancé avec vous, ça fait 6 mois. Qui sont offshore, qui dysfonctionnent le système de fonctionnement des banques congolaises, avec ses comptes plongés dans des paradis fiscaux.
Mais est-ce qu'il y a une barre psychologique qu'on ne doit pas dépasser, bon, qu'on est censé dépasser, et ne pas être en dessous sur le plan de l'économie ou sur le plan financier, par exemple, avec 1 milliard, et c'est vrai, bon, il y a quand même des pays qui n'ont pas les mêmes niveaux de réserves comme les nôtres.
Bon, monsieur, je vais vous répondre à cette question. Il y a deux grandes remarques. La première, c'est qu'il faut faire appel au régime congolais dans la constitution des réserves internationales légales ou bien obligatoires. Quel est ce régime congolais? Je pense que l'invité, son motif à intervenir tout de suite, va vous dire que ce régime chez nous ne perdait pas à faveur de l'économie, de l'économie et du système financier congolais. Pourquoi? Lorsqu'il était vous parler de la notion du taux de refinancement dans les banques, lorsque la banque centrale a tous ces taux-là de refinancement, pourquoi? Puisque lorsque dans une économie, ou surtout dans le circuit financier, il y a dépréciation des valeurs monétaires puisqu'on l'a soulevé, à ce moment-là, il faut aussi jouer sur les taux des réserves obligatoires, qu'elles soient nationales ou internationales. Puisque cette histoire-là des réserves légales doit jouer sur la santé économique et financière positivement, en régulant l'économie financière d'une nation, ou tout de même en se posant des questions sur la façon dont ça doit intervenir dans l'économie internationale. Ce qui ne se passe pas chez nous, je pense, puisque le taux-là est de combien? De telle année à telle année, ça a évolué de combien? Est-ce que ça a régressé ou que ça a évolué? Donc tout ça, ce sont les questions qui doivent se poser. Et la Troïka doit comprendre qu'il faut fiabiliser les statistiques en matière de la gouvernance des comptes bancaires en RDC. Et c'est là où je dis qu'en RDC, nous avons un problème par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une statistique fiable en matière de comptes bancaires ouverts, puisque c'est là qu'on réclame ces réserves-là obligatoires internationales.
Voilà, Sylvain, nous vous gardons en attendant. Nous retenons trois choses. Vous avez, en fait, signalé qu'il y a un dysfonctionnement du système financier international par rapport à la RDC et les volumes de transactions internationales par rapport à la réserve. En fait, il y a une adéquation terrible. Et puis, le système d'économie boursier n'existe pas à RDC. Voilà au moins les trois raisons. Mais en ce qui concerne le régime congolais du refinancement, là également, il se pose un problème. Il faudrait que le gouvernement puisse fiabiliser la statistique en matière des comptes bancaires. Merci beaucoup, mais nous vous gardons en ligne parce que notre invité pourrait vous éclairer quelque part et puis on reviendra à vous. Alors, Maître Adrien, vous êtes à Canada. Bonjour, Maître Adrien.
Oui, bonjour, Gilles Lungembo. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Voilà, Maître Adrien, vous venez de suivre d'ailleurs Sylvain, qui, en fait, au regard de plusieurs raisons, avancées par la troïka stratégique, la troïka économique du gouvernement, par rapport à cette situation où on a connu ce qui constitue les matelas financiers pour la RDC, aujourd'hui, se retrouverait en baisse, qui pourrait avoir des conséquences aussi néfastes. Mais quel serait, selon vous, le préalable pour inverser l'impact de cette situation sur la croissance économique?
Merci beaucoup, Gilles Lungembo, de la parole que vous m'accordez. Permettez-moi d'abord de saluer mon compatriote Sylvain qui venait de parler. Je suis à 90% d'accord avec tout ce qu'il a dit. Sauf il a essayé un peu de renverser donc la donne. Il faut dire que ce n'est pas le système économique international qui pose des problèmes, non, c'est le système économique congolais qui n'est pas adapté au système économique international. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train de subir trois conséquences. Premièrement, c'est ce que Sylvain a dit. Notre économie est essentiellement basée sur les matières minières. Ce qui fait que s'il y a un basculement au niveau international, nous sommes la première victime. Deuxième conséquence. Donc, l'extraverti de notre économie fait à ce que notre fragilité au niveau national, s'il y a un problème au niveau international, c'est nous qui subissons en premier lieu. Troisièmement, c'est ce manque-là de production. Maintenant, pour répondre à votre question, j'ai toujours dit, donner des préalables, ce que je peux appeler des garanties efficaces pour que nous ne puissions plus encore nous retrouver dans ce genre de situation, nous devons faire de l'agriculture une priorité des priorités. Parce que lorsque nous prenons des pays qui ont compris ce système-là de l'agriculture, je prends au hasard comme ça le Sénégal. Vous allez vous rendre compte que même s'il y a des problèmes au niveau international, mais l'économie sénégalaise reste stricte. Pourquoi? Parce qu'elle est essentiellement basée sur l'agriculture. Mais si nous continuons toujours à croire que non, donc les matières minières, ainsi de suite, les matières pétrolières, ainsi de suite, ça sera toujours compliqué. Là, c'est donc le premier préalable. Deuxième préalable maintenant, nous devons définir clairement la politique donc économique dans notre pays. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre économie? C'est ça la solution. Lorsque nous n'aurons pas une politique claire et nette en matière économique, nous serons toujours là pour continuer à subir des conséquences des grandes puissances. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC, c'est peut-être, si je ne sais pas exagérer, mais c'est l'un des pays le plus frappé, donc le pays qui sent de plus en plus la conséquence de la situation économique internationale. Mais lorsque vous prenez certains pays qui avaient déjà compris qu'il faut d'abord compter sur leur propre économie, il faut d'abord définir clairement la politique économique de leur pays, il faut donner la priorité à l'agriculture, il ne faut pas dépendre de l'économie d'ailleurs.
Maître Adrien, il y a également un autre aspect, quand nous lisons les commentaires qui fusent de partout par rapport à cette thématique, il est indiqué clairement qu'aujourd'hui, disons, les dollars américains représenteraient plus de 59% des réserves d'échange en devises allouées dans les mondes. Et on sait tout de même que l'économie congolaise et en tout cas quasiment dollarisé. Donc là aussi, c'est un problème. Aussi longtemps que les marchés d'échange qui est dominé par les dollars, une fois qu'il y a ce marché qui est affecté, ça aura directement un impact sur les marchés d'échange congolais.
Exactement, Gérard. Vous avez totalement raison. C'est le deuxième aspect des choses que je voulais déjà aborder. Parce que il y a donc vers 2011-2012, le gouvernement avait compris déjà. Il voulait anticiper pour dire que il faut freiner un peu l'élan donc du dollar au niveau national. Mais malheureusement, ce n'était que de chapeler de bonnes intentions. Aujourd'hui, toutes les opérations se passent en dollars. Et ce qui est grave, il y a même quelque part, lorsque vous vous présentez avec la monnaie nationale, on vous dit non, il faut aller chercher donc les dollars. Aujourd'hui, maintenant, personne ne parle de l'inflation qui prend de sa allure vertigineuse. Lorsque vous prenez un dollar, on l'échange selon la tête d'une personne à une autre. Et c'est ça, maintenant, ce que j'ai toujours dit, l'autosatisfaction de la Troïka. Parce que depuis tout le temps, la Troïka ne cesse de nous dire, voilà, nous avons maîtrisé le macroéconomique, nous avons maîtrisé telle situation, et tout de suite. Mais aujourd'hui, lorsqu'on disait à nos amis du gouvernement que tout ce que vous faites comme autosatisfaction, ça n'a pas d'impact vis-à-vis de la population, ils refusaient. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a compris qu'il faut changer de stratégie. Mais la stratégie la plus durable, j'insiste, il faut que l'agriculture soit déclarée une priorité des priorités.
Voilà, merci beaucoup Maître Adrien, nous résidons pour vous donc avec un point de vue un peu contraire hein, par rapport à ce que disait tout à l'heure Sylvain Debouya, qui a beaucoup plus insisté sur le système international qui en fait influençait le système congolais, mais vous avez peut-être plutôt parlé du système congolais qui n'est pas adapté au système financier international, voilà. Le débat est ouvert, Victor, vous êtes en Bazangungu, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'occasion que vous me confiez. Oui, je pense qu'il y a un grand travail à faire dans notre pays. C'est dit avoir une politique économique réellement qui reflète les potentialités dont nous disposons. Or, chez nous, nous sommes en train de nous amuser. Nous parlons plus politique que de parler de l'économie. Et là, c'est vraiment un sérieux problème. Vous imaginez quand on parle de ce matin, la réserve d'échange et tout cela, mais c'est par rapport, est-ce que c'est d'abord réel, est-ce que c'est d'abord vérifiable? Parce que chaque fois qu'il y a par exemple augmentation des prix à l'étranger, automatiquement nous sommes frappés 10 jours après ou pratiquement le même jour. Donc nous n'avons pas de réserve d'échange. Ce sont des discours dont on parle là. Après, pourquoi, qu'est-ce qui fait que dans notre pays, aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à faire des réserves considérables, pendant que dans le secteur minier, pendant les 3 années passées, en fait, il y a une année et demie que la crise a vraiment frappé le secteur minier, ou 2 ans, mais bien avant, les 5 années passées, le secteur minier était très très prospère, et toutes les entreprises, Glencore et tout ça, qui exploitaient au Congo, réalisaient des bénéfices, qui le carrément transféré dans leur siège. Et nous, on n'en a pas bénéficié. Donc moi, je pense que nous devons apprendre à être très, très sérieux. Et quand il y a cette rencontre de la Troïka, qui a remplacé pratiquement toutes les réunions hebdomadaires du gouvernement, moi, je pense qu'il faudrait expliquer à la population tout ce dont on parle. Et non en parler en termes codés pour que la population ne comprenne pas. C'est pas sérieux. Donc, il y a un grand travail à faire. Et notre économie, c'est réellement une économie très très fragile, parce que les dirigeants politiques ne prennent pas en considération pratiquement toutes les règles de gestion, et au niveau politique,
Et au niveau économique, voilà pourquoi nous sommes frappés.
Merci beaucoup, Victor. Votre inquiétude, c'est pratiquement la route, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'observateurs, même sur le plan international, qui parfois ont du mal à décoder les langages économiques actuellement, parce que c'est semble-t-il qu'un langage est un peu flou, qui est compréhensible que dans un monde économique. C'est pourquoi nous avons invité notre analyste qui parfois nous aide à avoir des éclairages par rapport à cette question. Merci beaucoup, Victor. Mais nous maintenant que pour vous, cinq années passées, les secteurs miniers, c'était un secteur prospère et la crise ne date que d'une ou deux ans, de raison pour laquelle on pouvait déjà avoir autant de réserves qui pourraient faire face à cette situation. Mais pourquoi on en est arrivé là? Autant de questions. Merci beaucoup. 081-890-63-15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous recevons dans ce studio Michel Sommouet, qui est analyste économique et qui est notre invité. Bonjour Michel.
Bonjour JR, bonjour à vos nombreux téléspectateurs.
Voilà, alors on est ensemble avec vous d'entrée des jeux, et c'est vrai, les auditeurs ont parlé. La question qui se dégage d'abord, je crois pour éclairer la lanterne des uns et des autres, d'abord, si vous pouvez peut-être nous dire, qu'est-ce que c'est la réserve internationale?
Bon, je vais tout d'abord saluer les téléspectateurs, Écoutez, les réserves internationales sont une épargne en monnaie étrangère ou en or que tous les pays du monde se font pour pouvoir faire face aux obligations de paiement extérieur. Le paiement extérieur, ça comprend les importations, ça comprend les paiements de dette extérieure, ça comprend aussi les investissements qu'on peut faire à l'étranger. Et pour ce faire, les nations, à partir des produits du commerce international, se constituent une épargne en devise ou en or. Juste pour ce besoin qui est venu développer. Voilà, de façon trop simpliste, la définition.
Alors pour moi, c'est constitué notamment ces réserves officielles de chaque banque, bon, notamment de notre banque centrale.
Les banques centrales, jadis, avaient la culture d'acheter des lingots d'or pour faire face aux besoins d'intervention en cas de fluctuation de leur monnaie. Et aussi aux besoins de l'économie nationale, en particulier du secteur des exportations ou des importations. Quand les gens veulent importer, théoriquement, ils devaient recourir au système bancaire pour obtenir des devises. Parce qu'il faut dire en passant qu'il n'est pas normal que dans une économie circulent des monnaies étrangères. Les monnaies étrangères qui sont produites par le commerce étranger, c'est-à-dire par ceux qui exportent et qui sont payés en monnaie étrangère, quand ces monnaies étrangères rentrent dans le pays, la Banque centrale a l'obligation de recueillir cette monnaie internationale et de la garder dans ses coffres en échange de la monnaie nationale. Parce que la théorie monétaire nous enseigne que la Banque centrale crée de la monnaie chaque fois qu'il y a des rentrées des devises étrangères, chaque fois qu'elle fait un crédit à l'État ou quand elle fait un crédit à l'économie. En monnaie, à ce moment-là, elle est obligée de donner la monnaie nationale. Alors, quand nos exportateurs, nos entreprises, en l'occurrence, exportent le cuivre, le cobalt, l'or, ou même rendent des services à l'étranger, par exemple les compagnies maritimes, si nous en avons une qui fait les transports sur l'océan à l'étranger, qui sont payés en devises, par exemple sur notre compagnie d'aviation, lorsque elle doit recevoir des recettes qui proviennent des pays, des compagnies étrangères, ces paiements se font en monnaie étrangère. Et quand ces monnaies étrangères entrent dans le pays, elles ont l'obligation d'être séquestrées à la Banque centrale. Et elles constituent une épargne à monnaie étrangère qui va être utilisée essentiellement lorsque le pays a besoin d'effectuer des paiements à l'extérieur, pour rembourser la dette, pour importer des marchandises, pour investir, etc.
Alors, qu'est-ce qui serait réellement la base de la chute des réserves internationales du RDC?
Mais c'est normal.
Parce qu'on a parlé de matières premières, de la chute des prix des matières premières, et que principalement le moyen de financement de notre pays.
Non, je crois qu'il faut, il faut avoir un langage clair. Une épargne ne diminue pas du fait que les prix d'un produit à l'étranger ont baissé, non. L'épargne diminue dans la mesure où vous
baissez. Selon la réunion de la Troïka.
Oui, mais justement, la Coupe de la Troïka, excusez-moi, c'est un peu de confusion. Les réserves internationales baissent en fonction de leur utilisation, pas en fonction des cours des matières premières à l'étranger. Parce que ça serait une magie que le cuivre baisse sur le marché international et qu'au Congo, la caisse des réserves internationales se vide. Pas qu'un mécanisme, même si le marché financier est irrationnel. Non.
Mais avons une économie extravertie.
Non, ce n'est pas le cas d'extravertie. C'est les réserves baissent parce que vous les avez utilisées. Parce que vous ne l'avez pas gardé, c'est normal. Vous garderez l'épargne dans votre compte, elle va diminuer si vous l'utilisez, c'est normal. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il veut dire concrètement, c'est qu'il y a moins de rentrées que de sorties. Il y a un déséquilibre au niveau de.
Bon, le problème, c'est les dysfonctionnements entre ces mécanismes qui devaient, normalement, se retrouver sur cette politique de la régulation monétaire entre la banque qui, en fait, garde le monnaie étrangère et qui crée des monnaies nationales pour, en fait, faire l'équilibre. Oui. Il y a un dysfonctionnement quelque part.
Oui, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la balance de devises étrangères. Cette balance reçoit en recettes ce qui provient justement des transactions internationales. Et elle effectue aussi des dépenses, elle a aussi des dépenses, et ce qui sort. Mais dans la mesure où ce qui entre est inférieur à ce qui sort, il est normal que le solde baisse.
En quoi, à vos propos, c'est comme si c'était mal utilisé?
Je suis en train de dire qu'ils sont en train de dépenser plus qu'ils gagnent. C'est ça. Nous sommes dans un gouvernement qui nous a habitués à dire que nous avons le principe de la gestion caisse. Nous ne dépassons que ce que nous gagnons.
Il y a un éditeur qui a envoyé un message en disant nous avons vu ces derniers temps beaucoup d'actions, en tout cas réalisées par le gouvernement, la construction d'un immeuble intelligent, la remise en service de quelques bateaux, la réhabilitation des voies routières, des voies ferrées. Est-ce que ça ne pourrait pas être parfois des dépenses de trop qui ont fait qu'aujourd'hui, on puisse connaître ce genre de problème?
Donc, vous savez que dans la plupart des dépenses.
Est-ce que ce n'était pas budgétisé, en réalité? C'est ce que voulait dire l'auditeur.
Mais c'est clair, et il paraît que c'est la vérité aussi, non? Ce que nous savons aussi, c'est que dans la plupart des dépenses qui sont effectuées par le gouvernement, il y a la surfacturation. Vous savez, combien a coûté l'immeuble intelligent? Combien a coûté la réhabilitation du bateau Cocolo,
Gourou,
qui après tout ne fonctionne pas. Combien ça nous coûte la réhabilitation d'un kilomètre ou la construction d'un kilomètre de
route? On parlait d'un million de dollars à l'époque, mais bon, voilà, par après, les spécialistes ont contredit, ils disent que peut-être plus de 2 millions parfois.
Je m'applique que parfois ça va au-delà, plus qu'à une dizaine de millions pour certains. Moi je pense qu'il est important, quelque part, qu'on commence par faire un audit pour savoir qu'est-ce que le gouvernement a dépensé de ce que nous avions gardé comme réserve de change, et il a dépensé à quoi, pour quelle utilité.
Alors, quelle est la barre psychologique à ne pas dépasser, bon, à dépasser, mais à ne pas aller au-dessus? Parce qu'à 1 milliard, déjà, ça, en dessous de 1 milliard, ça commence déjà à inquiéter, mais pourtant, il y a des pays aussi qui sont en dessous de cette barre.
J'aurais dû commencer par vous dire qu'il faut éviter le déficit inégal. Parce qu'on a beaucoup parlé de la stabilité du cadre macroéconomique, on a trop parlé de la croissance économique. On dirait de faire nouveau en économie quand on en parle au Congo.
Mais c'est pas comparé au problème des mortels, par l'économie des mortels. C'est le langage économique, c'est pour ça
que c'est le fétichisme. Ce sont des choses que nous vivons chaque jour.
Mais c'est le langage qui utilise tout analyse économique.
Oui, mais non, mais justement, lorsqu'on en fait une question de vie ou de mort, ça devient anormal. Les devises, je vous ai dit que la réserve de change sont une épargne en devises internationales. Lorsque nous étudions l'économie, parce que ça m'arrive aussi de l'enseigner de temps en temps, lorsque nous enseignons les principes de la macroéconomie, nous commençons par une équation fondamentale. C'est l'équation de l'équilibre entre les revenus et les dépenses. Et cette équation,
c'est les premiers principes même du budget. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.
Est-ce que nous parlons du budget en devise? C'est en train de débattre du budget en devise de la République démocratique du Congo maintenant. Là. C'est ça le but de la question. Le principe cardinal, c'est l'équilibre entre les revenus et les dépenses. Et la première formulation de cet équilibre exclut les réserves de surplus. La première formulation exclut le commerce international. On considère qu'une économie peut fonctionner normalement au départ sans être conditionnée par les évolutions sur le marché international. On commence par une économie fermée, c'est-à-dire une économie qui dit, moi je commence d'abord à l'intérieur de la maison, je veux balayer la maison avant de balayer l'extérieur.
Alors, monsieur Fomo, si vous permettez, on va prendre Mme Joséphine qui est à Boston, et puis Valérie à Kindou, et Sylvain, vous allez passer juste un mot par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que normalement, nous subissons le système financier international au lieu de créer notre modèle, et Adrien qui a parlé d'un système d'économie congolaise qui n'existe même pas, qui devait être plutôt, ça, et qui devait s'adapter au système financier international. Alors, Mme Joséphine, vous êtes à Boston, bonjour et bienvenue dans la parole.
Ah, bonjour JR, bonjour aussi à notre invité Michel Somouin. Je vais commencer directement par demander à Michel Somouin, en tant qu'économiste, quand on a parlé des gens sur les Panama Papers, Panama Papers est venu avec le, il y avait des Congolais. En tant qu'économiste, est-ce qu'ils se sont posé la question pourquoi ces Congolais faisaient les offshore? Combien d'argent? Est-ce qu'ils ont fait des enquêtes pour savoir les Congolais qui sont sur la liste là? C'est de combien d'argent qu'on parle? Et puis deuxièmement, on dit que le Congo, l'économie est basée sur le minerai. Moi, je vais ajouter le bois, parce que le bois, ça sort beaucoup. Le bois, les ressources humaines, on oublie ça, on oublie les ressources humaines. Et puis, il y a le pétrole aussi. Bon, je vais dire ceci. Dans un pays, quand les minéraux, bon, pardon, les minéraux, l'autre auditeur l'avait dit, quand l'économie marchait très bien, par rapport à un milliard qu'on parle d'aujourd'hui de réserves, c'était combien avant? On veut savoir, on peut pas seulement venir, non, il y a le réserve, comme vous avez dit hier, vous avez parlé de Matéla. Mm-hmm. Ça c'est tellement très bien parce que tout le monde va avoir à écouter. Mais il y a des Congolais aujourd'hui qui ne connaissent pas le Matéla. Le Congolais peut se dire le Matéla. Bon, le Matéla c'est quoi? On peut dormir par terre. C'est ce que le Congolais fait. Et c'est ce que l'économie est en train de faire maintenant. Les 1 milliard. Notre gouvernement ne voit même pas ça. Mais avant le 1 milliard, là, c'était combien? Je vais dire, Michel Somme me dit, c'était combien? Et puis, je vais dire ici aussi, quand il y a le comptoir, par exemple, de coton, se trouve au Rwanda, est-ce que vous savez combien ça sort? Parce que le Rwanda, maintenant, on dit que c'est le Rwanda qui est le premier exportateur du coton. Il y a l'or qui se vend au Kenya et en Tanzanie. C'est combien? Ça vient du Congo. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient du Congo. Je veux vous donner un autre exemple au niveau de Kashumaleza. Mm-hmm. On avait appelé un opérateur économique zambien pour venir amener un grand magasin à Lubumbashi. On l'a refusé. Qu'est-ce que on a fait? On a le commerçant a construit le marché juste après la frontière. Et la plupart de Lubumbashois vont acheter, donc sort l'argent de Congolais pour acheter en Zambie, juste à la frontière là. Est-ce que moi je me demande, il y a des économistes, je sais qu'il y a des économistes comme Somme au Congo, mais on ne les écoute pas. Notre gouvernement doit appeler tous ces économistes là et demander des conseils. Ici aux États-Unis, je termine par là. Allez-y. Pour le moment, nous avons un problème avec une banque, Wells Fargo. C'est une très grande banque. Qu'est-ce que la banque là a fait? le directeur ou bien le PDG au niveau de Congo. Le PDG a demandé aux travailleurs partout, le travailleur de Wells Fargo, de faire tout pour demander aux clients d'ouvrir de nouveaux comptes. Donc, en fonction des comptes-là, on donnait de salaire, de bonus, on donnait de bonus aux travailleurs. Alors, les travailleurs, quand tu ouvres un compte, on donne le bonus. Alors, les travailleurs ont commencé à ouvrir des comptes fake qui n'existaient pas. Alors, il y a un grand problème. Vous savez ce qu'on a fait? On a appelé le PDG de la Wells Fargo par un sénateur de Massachusetts. Il y a un grand problème. Je n'ai jamais vu là où on a appelé le premier ministre pour lui demander, par exemple, le problème qu'il a parlé à Lubumbashi, là, pour dire que quand on a vendu l'entreprise à 2,5 milliards de dollars, le premier ministre a dit qu'il ne savait même pas pourquoi il n'y a pas un groupe, il n'y a pas une...
Cette appellation au niveau du Sénat, au niveau du Parlement.
Tu dois faire ça. Merci beaucoup.
Je vous en prie, madame. Merci beaucoup, madame. Je dépine de nous avoir apporté quand même quelques éléments importants par rapport à qui ont réussi notre débat du jour. C'est vrai, vous avez également posé le problème de la fiabilisation de statistiques en matière de comptes aujourd'hui, en donnant un exemple de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Valérie, vous êtes à qui nous? Bonjour, Valérie.
Bonjour, monsieur Gilles Louis-Lembo, et je salue également notre invité Michel Sommouet, que je respecte beaucoup à cause de son analyse. Bien, je disais que 1 milliard comme réserve, vraiment, c'est tout à fait élémentaire, presque même insignifiant. Cela signifie que nous sommes en face d'un problème qui exige une adaptation de la politique monétaire. Donc, par exemple, c'est la Troïka qui nous avance sur ce chiffre. Mais j'aurais bien voulu que pour des raisons de la conjoncture, que cette mesure, que la TOICA puisse momentanément s'élargir, même à d'autres institutions telles que la FEC, la NAPI et autres, bref, toutes les institutions qui sont impliquées aux agrégats économiques. Parce que pour avoir suffisamment de réserves, il faut beaucoup d'échanges et surtout plus d'exportations.
Oui, Valérie, je reviens sur la question que vous avez posée tout à l'heure à un de vos prédécesseurs. On sait tout de même que depuis 1995, le dollar représente plus de 60%, en tout cas sous réserve des analystes économiques, de réserves d'échange en devises allouées dans le monde. Et on sait tout de même que notre pays est quasiment, en tout cas l'économie de notre pays est quasiment dollarisée. Voilà ce qui serait d'ailleurs à la base de notre difficulté.
Pas nécessairement, parce que même si l'économie est dollarisée, mais si nous exportons plus, nous aurons aussi une grande réserve. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une chute au niveau des recettes d'exportation et accroissement des dépenses au niveau des d'importation. Par là, il faudra une politique monétaire tout à fait accrue et plus particulièrement par exemple une politique de crédit. On doit inciter aussi l'investissement, par exemple. Il faudrait qu'on incite l'investissement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont assez d'argent, mais qui n'est pas déposé à la banque. Alors, si on incite maintenant l'épargne, cette épargne, nous pouvons convertir cette épargne en investissement. Et tout cela, ça nécessite des mesures qui exigent peut-être qu'on puisse élargir la TOICA à d'autres institutions telles que la FEC, la NAPI et bien d'autres.
Deuxièmement,
pour arriver à beaucoup de projets, il nous faudra également aussi résoudre les problèmes de l'énergie. Alors, imaginez-vous que nous avons la centrale hydroélectrique de l'INA qui a un certain produit, 42 000 mégawatts, mais alors que la plus grande centrale au monde, c'est en Chine avec 22 000. Vous comprenez que si les travaux des barrages d'INA, plus disons de la centrale hydroélectrique d'INA, peuvent quand même avancer, ça serait une bonne chose si j'ai l'énergie.
Alors, mais
il y a aussi accroissement de la production et cela va nous permettre d'avancer. Oui, allô, oui.
Oui, Valérie, il y a juste une question de précision, peut-être par rapport à votre compréhension. Ceux qui disent qu'il y a un problème au niveau des dépenses publiques aujourd'hui qui serait également à la base de cette situation, comment réagissez-vous?
Oui. Ok, s'il y a accroissement des dépenses publiques, je crois qu'on peut supprimer certaines dépenses publiques. Par exemple, on peut délimiter certains frais d'émission à l'étranger, ainsi de suite, toutes ces dépenses qui n'ont pas créé à la production. On peut d'abord les réduire en favorisant la production. Par exemple, nous avons le parc, j'ai appris récemment l'histoire du parc de Kipaka, de Chomanema. Donc on peut par exemple accélérer un peu les travaux avec le parc agro-industriel de Bukangaloso, accélérer un peu l'avance. Et puis, il y a encore un autre problème, par exemple, tous ces clésors qui nous retrouvons dans diverses provinces à vocation hier. Je ne sais pas comment les métiers sont tout à fait aussi centralisés. Tout ça, ce sont quand même des éléments que nous devons voir afin d'accroître les risques de recettes d'exportation. En les accroissant, ça nous permettra
d'avoir
des mesures incitatives vis-à-vis de l'investissement et des crédits, tout ça. Alors la politique des crédits va contribuer à l'amélioration maintenant des aides d'échange.
Merci beaucoup Valérie d'avoir appelé l'équipe 081-890-6315 pour votre intervention directe. Notez que le débat se tient également sur notre page Facebook.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, puis de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R.N.G.M.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce cadre d'échange citoyen. Sylvain, nous vous avons gardé en ligne et vous êtes encore là, Sylvain ?
Je suis là.
Alors, justement, par rapport à ce que vous venez d'écouter des autres.
En fait, il faut dire que si je retiens le point de vue des auditeurs qui viennent de parler, je comprends que le problème qui se pose aujourd'hui, puisqu'il s'agit des réserves internationales en matière de la gestion des finances publiques congolaises, on sait clairement que le dilemme se pose au niveau du comportement des entités financières, mais aussi de celui qui gère les finances publiques internationales. Et alors, lorsque vous comprenez qu'il s'agit d'un problème de dysfonctionnement des entités financières, il revient là de dégager clairement la responsabilité des frères congolais face aux problèmes internationaux, face aux problèmes internationaux dans l'économie, par rapport à l'économie congolaise. Et là, je voudrais aussi demander à l'idée de Michel Sommet. C'est tout à fait normal que dans une économie où on est à divagation de production de biens et services, pour respecter l'équation selon laquelle c'est que les dépenses doivent correspondre aux revenus, effectivement, que nous sommes dans une situation compliquée. Mais qu'est-ce que je peux dire en bref, finalement ? Je ne suis pas monétariste, mais je comprends qu'aujourd'hui, le problème se pose pratiquement à terme des problèmes si le franc congolais attaque bien. Pourquoi attaque bien ? Puisque c'est le seul canal qui nous pousse à répondre à nos obligations face à toutes les opérations de la vie économique ou financière de notre nation. Et donc, lorsque nous considérons tout cela, il va falloir que nous puissions d'abord remettre de l'ordre dans les banques, puisque lorsqu'on parle des banques, c'est ça le seul canal qui permet à ce que nous soyons responsables vis-à-vis de nos obligations financières internationales par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les réserves internationales. Voilà ce que je pense par rapport à ce débat.
Merci beaucoup Sylvain, à très bientôt. Alors, on revient à vous, Michel Sommet. Après avoir écouté les uns les autres, serait-il possible aujourd'hui de reconstituer encore le plus rapidement possible les réserves actuelles donc internationales de l'RDC.
Oui, ce que je disais avant de terminer, tout à l'heure, hein, c'est que évitons d'en faire un problème de vie ou de mort. Parce que une économie peut fonctionner parfaitement bien, et même si son commerce international est faible. Il y a ce qu'on appelle les grands pays et les petits pays. Les grands pays sont des pays qui ne dépendent pas si étroitement du commerce extérieur. Et les petits pays sont ceux qui, sans le commerce extérieur, sont morts. Les États-Unis d'Amérique sont un grand pays parce que leur marché intérieur est plus important que leur dépendance à l'économie mondiale. Donc la question des réserves internationales me semble prendre une telle ampleur, simplement parce que nous sommes une économie pathologiquement extravertie. Moi, je pensais que un gouvernement géré par essentiellement par des économistes devait quand même être différent de celui qui a été confié, j'allais dire, aux charpentiers, aux mécaniciens.
Non, mais moi je compare cette situation à la situation que nous avons connue dans les années 90, avec à la tête du gouvernement Mouloud Balokoji, des pères économistes. Et, au sein, il y avait des comme de Mali Moulumba et tant d'autres. C'était aussi un gouvernement des technocrates, vous vous rappelez, et un gouvernement qu'on a nommé l'Union nationale. Mais sur la question de l'inflation, et sur la question même de la stabilité du cadre macroéconomique, il a été difficile, même à ces gouvernements composés des experts, des économistes et des renoms, on n'a pas pu sortir le pays, le Congo à cette époque, mais bien entendu, qui venait de sortir de la crise de 91 et 93. Bon voilà, on pourra avoir avancé ça comme raison. Mais le problème ne se pose pas au niveau d'hommes, hein. Le problème se pose au niveau de la politique qu'on imprime.
Mais la politique, c'est une œuvre des hommes, aussi bien du point de vue de sa conception que du point de vue de son application. Donc il y a une question d'homme qui se pose. Vous faites allusion à la crise des années 90 que nous avons connue. Mais c'est une crise qui a été largement imputable, comme je disais tout à l'heure, Sylvain d'ailleurs, largement imputable au dysfonctionnement du système monétaire, du système bancaire, plus précisément. Vous vous souvenez qu'il y a eu des problèmes de liquidité,
avec le Komboso,
parce qu'on a commencé par la Banque centrale s'est révélée incapable de fournir à l'économie nationale des moyens de paiement dont elle avait besoin. Et le système bancaire, dans sa pathologie chronique, n'offrait aucun avantage aux épargnants de garder leur argent en banque. Et il s'est posé ainsi un problème de liquidité. Les banques ne savaient pas où trouver de l'argent. Ça posait un problème. Avec l'arrivée des bindos dans la danse, vous vous souvenez, avec des faits bindo qui est venu faire prouver qu'on peut faire mieux que les banques en donnant des crédits, donnant du taux d'intérêt des créditeurs aux épargnants. Alors, il y a eu, comme la nature a horreur du vide, il y a eu le fait que le dysfonctionnement du système monétaire intérieur a provoqué une crise qui aurait dû être réglée également par la restructuration de ce même système. Ça n'a jamais eu lieu jusqu'à ce que...
Ce qui a fait que plusieurs gouvernements se sont succédés, personne n'a pu stabiliser la monnaie.
La crise que nous vivons aujourd'hui, elle vient de là. Parce que, au lieu de résoudre le problème en termes de l'approvisionnement ou de l'enlèvement du marché intérieur, on a remplacé un mal par un autre. On a carrément renoncé à la monnaie nationale pour nous ouvrir totalement aux caprices de l'art américain. C'est de là que vient la dollarisation. C'est parce que la Banque centrale s'est avouée incapable de fournir à l'économie nationale des moyens de paiement dont elle a besoin. Voilà comment elle a dollarisé. Et le régime actuel est venu légaliser ce système. Et il se souviendra que le 31 janvier 2001, le président de la République, Joseph Kabila, 4 jours après sa prise de pouvoir, après son investiture officielle, prend son premier décret-loi qui légalise l'extraversion de l'économie et la dépendance à l'égard de l'art américain. Le décret numéro 004 autorise la libre circulation, la libre détention des devises étrangères sur un territoire national. On a ouvert l'économie nationale à un jeu de regard libre dans un poulailler libre. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui.
Mais pourtant, en 97-98, le nouvel rendez-vous de Kabila avait arrêté quand même cette
exactement. Le nouvel rendez-vous de Kabila avait pris le décret loi 167, si ma mémoire est bonne, qui interdisait la libre circulation des biens étrangers dans le territoire national. Parce qu'il faut nationaliser l'économie. Parce qu'il faut que l'économie nationale dépende de nos politiques à nous, notre politique monétaire.
Et à ce moment, on avait quelle réserve internationale? On n'en avait même pas.
Je suis en train de dire justement que la question du réserve, on a fait un fétiche aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Ça m'a donné été une question de vie ou de mort.
En attendant, avant de répondre à Mme Joséphine et à l'autre, on va prendre Élie Baudouin et Bitou, les derniers auditeurs, et puis on revient à vous, Michel Fomoy. Élie, vous êtes en Pantaka, bonjour Élie.
Alors, bonjour aux journalistes et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, quel est votre avis pour qu'on arrive aujourd'hui à renverser ou à inverser l'impact de cette situation sur la croissance économique?
Merci pour l'opportunité que vous m'accordez. Ici, la question la plus importante est pour la valorisation de l'économie congolaise, à mon avis, de la vie. Je parlerai d'abord dans la vie socio-économique congolaise. En ce qui concerne la dépréciation de la monnaie congolaise, une libre observation montre que le dollar américain est utilisé comme réserve de valeur, comme unité de compte, comme moyen de paiement dans notre pays. Mais la plupart du temps, les dépôts bancaires s'exercent toujours en dollars. La plupart des personnes congolaises cherchent à ouvrir même les comptes bancaires par le dollar. Même lorsque vous regardez, même pour les paiements des frais académiques aux universités, les étudiants payent les frais académiques en dollars. Cela constitue déjà un pas pour la dévalorisation de notre propre monnaie. Alors, s'il faut aller en ce qui concerne le prix de la matière première aujourd'hui dans notre pays, nous sommes un état, si le plat, même si lorsque nous regardons la qualité
Je crois qu'on va évoluer. Notre invité l'a si bien dit, la situation ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est l'une des raisons, la chute des prix des matières premières, mais on a eu à réfléchir avec l'invité, on a fait des analyses. La situation a été très longtemps. On s'est remonté un peu l'histoire vers les années 90 avec les pillages de 91, 93, et aussi des problèmes avec l'ouverture au niveau de l'échange international, et ce qui a posé également les problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors nous passons quand même à Baudouin pour gagner du temps. Baudouin, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Allô?
Allô, monsieur Baudouin, vous êtes avec nous?
Bonjour, monsieur.
Oui, vous avez la parole, Baudouin. Quel est votre avis, rapidement?
Oui, mon avis, rapidement, c'est dommage parce que là, je suis en train de rouler dans la voiture. Et j'ai suivi il y a quelques instants le débat et j'ai salué en passant à vous-même ainsi que monsieur Saumon, que je connais très bien, qui est un collègue de la faculté de sciences économiques. Voilà mon avis, en résumé, est celui-ci. Je crois que lorsque on entreprend des études universitaires, notamment en sciences économiques, c'est pour résoudre des cas précis dans une économie donnée. Et dans les cas d'espèce, l'économie de notre pays est une réalité à part. Cette réalité-là, depuis que nous l'avons héritée de la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui, est celle que tout le monde a essayé de décrire. C'est une économie d'extraversion, une économie extravertie. Et naturellement, les Belges à l'époque, qui considérait notre pays, notre économie comme une économie de tiroir, c'est-à-dire qu'ils devaient exploiter à l'intérieur de la RDC et ramener tous les produits en Belgique. Mais cette orientation, nous ne l'avons jamais changée, nous en tant qu'économistes. C'est ça le premier problème que nous devons résoudre en tant qu'économistes, en tant qu'experts. Parce que autant les autres ont trouvé des solutions au problème qui s'est posé dans l'ère d'économie, autant nous autres économistes de la RDC, nous devons également, de manière spécifique, trouver des solutions au problème de notre économie. Le tout premier problème de notre économie aujourd'hui, c'est son orientation. Une économie tournée vers l'extérieur, c'était l'orientation donnée par les Belges, et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais changé, et c'est très dommage. Deuxièmement, lorsque l'on photographie la même réalité qu'est l'économie de la RDC, mais notre pays, la RDC, son économie, c'est en fait ce qu'on appelle en macroéconomie un pays riche en ressources. C'est-à-dire que de tout temps, notre pays est trop dépendant des ressources et spécialement les ressources minières. Et tout le monde le sait, tout le monde revient là-dessus pour dire que les ressources minières, elles sont d'abord épuisables, donc des ressources non renouvelables. Et donc d'ici là, vous irez dans les cafés. Vous trouverez des fossés, vous trouverez des érosions, et on a exploité le diamant et c'est parti servir dans d'autres économies et grâce à les autoroutes. Vous irez dans quelques décennies au Katanga, vous ne trouverez que la misère et toutes ces ressources auront été exploitées 50 ans après, peut-être 30 ans après,
ça sera évolué. Bonjour, merci beaucoup. On a pris assez de temps, mais nous
restons... Je suis en train de terminer, monsieur le journaliste.
Oui, parce qu'on a pris assez de temps, il ne reste que deux minutes, le temps peut-être accordé à une minute pour la conclusion de notre invité. Mais nous restons que vous avez posé un problème d'orientation de notre économie, hein, qui est extraverti aujourd'hui, et que nous sommes un pays riche en ressources, mais en réalité, nous créons pas de problème. Donc, je crois qu'on pourrait vous avoir très prochainement, comme on a vos contacts, dans le cadre même des débats économiques, on pourrait vous associer prochainement. Merci beaucoup, monsieur Baudouin. Alors, on revient à vous, Michel Somoué, pour conclure cette émission. Alors, Bétou, vous êtes occupé, on vous garde d'accord. Le temps peut-être que notre invité place un mot par rapport à ce que les autres ont dit. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Les problèmes étaient les plus profonds qu'on peut le croire aujourd'hui. Mais en réalité, on peut dire que le Congo n'a pas réellement des réserves internationales. Ou on n'en a pas besoin.
Même jusqu'à 3, 4, 5 milliards de dollars, on n'a pas de réserves internationales. Qu'est-ce qu'on vous dit par le ministre de l'Économie, sa qualité sont contre rendu? Internationale qui s'équivale à 4 semaines d'importation, 3 semaines d'importation, 5 semaines d'importation. Mais l'importation de quoi? De quel montant, de quelle valeur, de quelle utilité pour le pays? Si ce pays devait effectivement importer pour son développement, il devrait importer massivement des biens d'équipement pour industrialiser le pays. Est-ce que nous avons, même avec le 1,7 milliard ou le maximum qu'on a eu dans ce pays, est-ce qu'on peut l'utiliser pour acheter des biens d'équipement? Et une saisie d'économie, c'est zéro par rapport aux besoins de l'économie nationale. Nous n'avons pas de réserve internationale. En réalité, c'est ça. Ce que Baudou est en train de dire, et que lui aussi a dit, c'est important. Lorsqu'il dit les économistes devraient révolutionner, c'est pour ça que j'ai compris. Tout à l'heure, je disais, le gouvernement se comporte comme si c'était géré par des mécaniciens et pas des économistes. Mais ce n'est pas un économiste comme moi, analyste, comme qui veut changer les choses. Moi, je m'arrête à donner des conseils, à donner des avis. Il y en a qui sont sur le terrain pour pratiquer, pour appliquer.
Mais vous avez travaillé longtemps au ministère des Finances.
Non. Moi, j'étais directeur à la Banque centrale. J'étais directeur de cabinet au ministère des Finances.
C'est quoi le problème? Parce que mieux vaut un crocodile qui dit aux poissons, qui dit aux humains que le poisson est malade, vous avez été avec eux. Alors, qu'est-ce qui ne va pas concrètement en une phrase?
Le problème est dans l'indépendance économique du pays, qui comprend la capacité pour un gouvernement de s'assumer et de prendre des mesures de politique qui correspondent aux besoins effectifs de l'économie nationale. Le problème de l'indépendance est un problème capital parce que ceux qui nous dirigent nous sont imposés par l'étranger pour l'intérêt des étrangers.
Michel Somoué, merci. Nous rappelons que vous êtes analyste économique. Nous terminons par ici. On se retrouve avec vous peut-être dans un autre débat économique. Nous n'allons pas nous quitter, donc sans pour autant dire merci à Sylvain Matoulou qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Julie Pesa Bongonda qui a assuré en même temps le standard de cette émission coordonnée. Est présenté par J.R. Lungembo Luabou Angie sous la supervision de Martin Sebou Jangé. À très bientôt.